va lire tout ce chapitre et méditer sur le baptême de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 1er. Chapitre 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Et il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit : C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir au-dessus des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Les trois années de ministère terrestre de Jésus ont été précédées par la venue de Jean-Baptiste. Combien de temps Jean-Baptiste a duré ? Combien de temps avant Jésus il est intervenu ? On ne peut pas trop le dire. On sait qu'ils sont à peu près du même âge. Moi, je pense que Jean-Baptiste a duré peu de temps. Mais son ministère a été remuant. Sa prédication était remuante. Son message, c'était surtout un message de repentance. Le peu qu'on a dessus, c'était direct. Race de vipère, etc. Quand il a vu les pharisiens, il leur est rentré dedans. Mais quand on lit dans l'évangile de Luc et on voit comment il s'adresse aux publicains, il leur parle aussi de manière incisive. Quand il s'adresse à d'autres, il leur parle aussi de manière directe. Il avait un message fort, net, sans détour. Nous voyons en tous les cas que beaucoup de personnes sont venues auprès de Jean-Baptiste. Beaucoup de gens, beaucoup surtout de la masse du peuple, quelques pharisiens, il nous est dit beaucoup par rapport, mais pas tous. Mais en même temps, Jean-Baptiste fut contesté. Il fut contesté par les religieux notamment, parce qu'ils étaient dérangés par son message direct. Et Jean-Baptiste, il invitait à la repentance pas seulement les plus pauvres, mais même les gens les plus élevés, les religieux, il leur disait : Vous avez besoin de vous repentir. Et ne vous cachez pas derrière certains arguments comme : Nous avons pour père Abraham, etc. Hein, vous avez vu, il était direct. Mais il a été contesté parce que justement il dérangeait, puis parce que, voilà, il pointait du doigt aussi chez les chefs religieux. Jean-Baptiste a parlé sur le Messie. Il savait à un moment donné qu'il le verrait. Et quand il a vu Jésus venir à lui, il a eu cette conviction et cette révélation que c'était lui. Pourtant, il le connaissait, mais là, ça a été le dévoilement, ça s'est posé sur son cœur. Les choses qui vont se passer après vont appuyer un peu plus dessus. C'est là où il fera cette déclaration : Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelques remarques, en tous les cas, entre le baptême de Jean et le baptême au nom du Seigneur, le baptême de Jésus, il y a quand même une différence entre les deux baptêmes. Le baptême de Jean était en vue de la repentance. On l'a lu, hein. Son but, c'était d'amener à la repentance. En se faisant baptiser du baptême de Jean, la personne disait: je décide de changer de vie. Je veux que Dieu me pardonne. Le baptême de Jésus-Christ est différent. Christ vient dans notre vie, nous sommes pardonnés de nos péchés, je suis sauvé et c'est pourquoi je m'engage avec lui. Il y a une différence. L'un était un petit peu en vue du salut, l'autre découle du salut, si je peux dire les choses comme ça. C'est pourquoi, à un moment donné, l'apôtre Paul prendra la décision de rebaptiser, entre guillemets, ceux qui avaient été baptisés du baptême de Jean. Il y a une différence importante. Je me permets d'appuyer un petit peu sur le baptême. La forme du baptême, elle a son importance. C'est dans une rivière et il y allait, je suppose que Jean-Baptiste, il y allait à fond. L'aspersion, elle est venue plus tard. Et puis, je me permets de le dire aussi, pour ceux des fois qui se sont fait baptiser dans le Jourdain, c'est pas le lieu ou l'eau du baptême qui a son importance. C'est l'expérience qui précède qui importe. Quand il y a eu repentance, quand il y a eu nouvelle naissance, quand il y a eu l'engagement d'une bonne conscience, voilà, je m'engage à vivre avec Jésus-Christ, j'ai compris ce qu'il a fait, là, bon, je peux m'engager. Là, le baptême a toute sa valeur. Et puis, je rappelle aussi le caractère public du baptême. C'est très important, c'est une alliance publique. Je m'engage devant Dieu, devant les anges, devant le monde, devant l'Église de Jésus-Christ. C'est une position. Je dis ça parce que c'est un petit peu à la mode aujourd'hui, les baptêmes spontanés et les baptêmes un petit peu à la Philippe avec l'Éthiopien. Là, on trouve ça un petit peu, c'est un peu anarchique. Mais le baptême, c'est une prise de position publique. Et c'est bien de le dire. Au verset 13, Jésus vient vers Jean-Baptiste. Celui-ci donc le reconnaît et prophétise sur lui. Et puis, Jésus va demander à Jean-Baptiste de le baptiser. Et là, il va y avoir un malaise chez Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste va exprimer ses réticences et nous les comprenons. Les réticences de Jean-Baptiste, elles sont à deux niveaux. D'abord, il se sent indigne, lui, de baptiser Jésus. Parce que juste avant, ou peu de temps avant, il avait dit: je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Enfin, il avait parlé comme ça. Donc forcément, il se sentait indigne de baptiser Jésus. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il lui dira, hein, il dira: c'est pas moi de te baptiser, c'est plutôt à toi de me baptiser. Mais Jésus va le convaincre. Et Jésus va insister. Finalement, il va accepter. Et puis, les réticences de Jean-Baptiste, elles sont aussi par rapport à Jésus. Pourquoi ? Jésus avait-il besoin de se faire baptiser ? Bien évidemment que non. S'il y en a un qui n'avait pas besoin de passer par le baptême de repentance, c'est Jésus. Il est le seul qui pouvait dire qu'il me convaincra de péché. Il est celui qui n'a jamais connu le péché, comme dit la parole. Et pourtant, il va passer par ce baptême-là. Dans Matthieu chapitre 3, verset 15, Jésus dit: « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Jésus ne dit pas que je me baptise parce que j'en ai besoin. Il le dit pour accomplir ce qui est juste. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 13, il nous est dit que Jésus, il est venu vers Jean pour être baptisé. Il n'est pas venu au voir au Jourdain ce qui se passait, où j'ai entendu que ça bouge, là, je viens voir un petit peu ce qui se passe. Tu baptises, il prend la décision au pied levé. Non. Il est écrit, il est venu pour être baptisé. Sa décision, elle était réfléchie, mûrement réfléchie. Je dis ça par rapport à des fois des personnes qui se retrouvent dans une réunion, on décide de baptiser, une heure après, elles sont baptisées. Il faut réfléchir, c'est un engagement, ça demande de la profondeur. Et je crois que c'est important. En tous les cas, Jésus est venu pour être baptisé, donc sa décision, elle était préparée. Jésus s'est donc fait baptiser du baptême de repentance. La question que l'on se pose alors, c'est pourquoi ? Dans quel but ? Que faut-il comprendre dans cette parole « accomplir tout ce qui est juste » ? La première chose que je voudrais dire, c'est qu'en se faisant baptiser, Jésus a cautionné et a approuvé le ministère de Jean-Baptiste. Ce n'est pas la raison principale de son baptême, mais c'est quand même là. C'est plus une conséquence, mais en tout cas, il y a ce message qui passe par le baptême de Jésus. Rappelez-vous la question que l'on a posée un jour à Jésus. Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Il venait de faire le ménage dans le temple. C'est-à-dire qu'il avait mis comme un coup de pied dans le business des religieux, si je peux parler comme ça. C'est eux qui tenaient les affaires. Et alors ils disent, par quelle autorité tu fais ces choses-là ? Jésus, il sent le piège, la question piégeuse. Et bien souvent, quand c'est une question piégeuse, Jésus répond par une question. Chaque fois que Jésus répond à une question par une question, c'est que la question, il y a en tourloupe. Il y a anguille sur roche. Et Jésus répond par une question. Et c'est quoi ? Comment il le répond ? Je vous adresserai aussi une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Et il est écrit ceci, mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car ils nous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, eh bien moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses-là. Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Donc on voit bien qu'il y a eu... Il est évident que s'ils n'ont pas cru en lui, ils ne se sont pas fait baptiser, ces religieux. Mais Jésus, en se faisant baptiser, lui pouvait tenir ce langage. Et il pouvait dire, ça vient de Dieu. Jean-Baptiste est vraiment l'envoyé de Dieu. Il y a un autre passage où Jésus va expliquer le ministère de Jean-Baptiste. Il va le défendre et il dira ceci. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Vous voyez, là c'est très clair. Jésus a justifié le ministère de Jean-Baptiste en se faisant baptiser. C'est d'autant plus important qu'il faut comprendre que, mettez-vous à la place des Israélites, vous êtes là et vous avez un prophète qui arrive, avec une tenue, un poil de chameau, un langage un peu incisif, il est au désert et il prêche la repentance. Et puis, quelque temps plus tard, vous avez quelqu'un d'autre qui se lève. Différent, l'habillement est toujours simple, mais le message est un petit peu différent. Jésus, il prêche beaucoup la grâce. Il prêche la repentance, mais c'est quand même différent. Jésus fait des miracles et des guérisons, Jean-Baptiste n'en faisait pas. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe en Israël ? On n'y comprend rien. C'est qui qu'il faut suivre ? Ils n'ont pas tout à fait le même message. Et il n'en faut pas beaucoup pour que certains disent, ah ben moi je suis pour Jean-Baptiste, et moi je suis pour Jésus. Moi je suis pour Jésus parce que lui il mange avec tout le monde. Moi je suis pour Jean-Baptiste parce que justement il se tient à l'écart. Moi je suis contre Jésus parce qu'il mange avec les publicains. Moi je suis pour Jésus parce que lui il fait des miracles. Vous voyez, c'est vite fait de parler comme ça. Et Jésus, il rassemble un petit peu. C'était facile. Moi j'aime beaucoup dans la réponse de Jésus quand il lui dit « C'est à moi de te baptiser, pas à toi de le faire. » Vous avez vu la réponse de Jésus ? Il ne dit pas « Il est convenable que j'accomplisse ce qui est juste. » Mais il est convenable que nous accomplissions le « nous ». C'est qui ? C'est toi et moi. Et il dit « Jean-Baptiste, on est dans la même équipe. On est ensemble. Ah, » et je crois que c'est... On forme la même équipe et je crois que c'est un point qui est vraiment important. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que Jésus est remarquable dans la manière de parler de Jean-Baptiste. Jamais il accepte la compétition, la concurrence. Mais il y a là une pensée qui est là, en tous les cas, importante. Jean-Baptiste a commencé, il y a eu comme un passage de relais à un moment donné. Vous savez, quand vous regardez une course avec des relais, à un moment donné, les deux coureurs courent en même temps. Il y en a un qui finit sa course et l'autre qui est en train de démarrer. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passait. Et ça crée de la confusion. Et voilà pourquoi Jésus, c'est comme une prise de témoin à ce moment-là et à le passage de relais. Il y a une autre raison. En se faisant baptiser, Jésus veut faire passer quel message ? Eh bien, il nous fait passer un message d'humilité et d'abaissement. C'est même un grand exemple d'abaissement, de renoncement, et je veux dire un mot qui peut déranger, de soumission. À l'heure où l'on se bat pour l'égalité, où certains se battent pour montrer qu'ils sont supérieurs aux autres, Jésus lui se bat pour montrer sa soumission et son abaissement. Jésus, il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais en le faisant, il s'identifiait davantage à nous. L'abaissement de Jésus, bien sûr, il a commencé avant. L'abaissement de Jésus commence en se faisant homme. Il renonce à sa gloire céleste. Il se limite. Et qu'il soit né dans une étable ou qu'il soit né dans un palais, c'est un abaissement pour lui. Alors c'est vrai que pour nous, ça parle un peu plus. Qu'il soit né dans un milieu pauvre, mais même en étant né chez le plus riche, c'est un abaissement. C'est déjà un dépouillement. Mais là, il y a une nouvelle étape. Parce que en se faisant baptiser ainsi, il s'identifie à l'homme pécheur que nous sommes. Il prend notre condition. Et puis ça va continuer. Ce matin, quelqu'un a parlé de Gethsémané dans sa prière. Là aussi, il continue. Bien sûr, jusqu'à la croix, c'est l'abaissement. Jésus ça rentre pleinement dedans. Nous connaissons ce texte et nous l'aimons. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition est celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être retrouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le baptême de Jésus-Christ s'inscrit dans dans ce dépouillement, cette humiliation. C'est d'autant plus remarquable qu'en se baptisant du baptême de repentance, Jésus prenait des risques. En se faisant baptiser ainsi, Jésus s'exposait à la critique. Tu prétends être sans péché ? Mais alors, pourquoi tu t'es baptisé du baptême de repentance ? Tu montres bien que toi-même, tu sens le poids de tes péchés. Jésus, il s'exposait là. Alors Jésus savait très bien que de toute façon, s'il se faisait baptiser, il serait critiqué. Et s'il ne se faisait pas baptiser, il serait critiqué par d'autres. Donc forcément, Jésus, il sait ça. Il pèse toutes ces choses-là. Mais personnellement, j'ai toujours été mal à l'aise avec le baptême de Jésus par rapport à ça. Mais Jésus, ici, il fait le choix de s'abaisser. Et il prend notre condition. Tant pis si ce n'est pas compris. Mais il va jusqu'au bout, dans son abaissement. Jésus l'a fait parce que c'était le chemin. Parce que c'était la consigne du Père. Parce que c'est là où le Saint-Esprit le poussait. Rappelez-vous, lorsqu'on regarde le baptême de Jésus, ça s'inscrit dans une conduite du Saint-Esprit. Quand on lit dans l'évangile de Luc, on voit que Jésus, là, il se fait baptiser, puis le Saint-Esprit conduit, il le pousse, il va être tenté, et puis il commence ensuite. Il y a là vraiment une direction de l'Esprit. Et je crois que c'est important de se le rappeler. Il y a deux mentalités possibles. Et il y a Philippiens chapitre 2, où la Bible nous dit que Christ s'est abaissé, il s'est humilié, il a renoncé et Dieu l'a souverainement élevé. Mais on peut trouver une autre mentalité. On la trouve dans Ézéchiel 28, quand il est question du prince de Tyr puis du roi de Tyr. Vous relirez ce texte. Et c'est une allégorie par rapport à Satan. Et il est dit quoi ? Satan, il voulait acquérir. Satan, il a voulu s'élever. Lui, il a voulu s'élever au rang de Dieu. Et le résultat, il a été précipité. Il y a deux mentalités. Soit j'accepte de renoncer, soit je sais m'abaisser et je sais me placer, je sais mettre que l'humilité me fasse regarder les autres comme au-dessus de moi-même. Et cette mentalité-là, elle permettra à Dieu de m'élever. C'est l'esprit de la croix. Soit je veux m'élever, j'écrase les autres, je veux prouver que j'ai raison, je montre que je suis le plus fort. Cette mentalité, elle me fait plonger un jour ou l'autre. Deux mentalités complètement opposées. Mais la Bible dit que celui qui cherche à s'élever, il sera abaissé. Celui qui s'abaisse, il sera élevé. La soumission qui veut dire se mettre dessous, hein, vu comme ça, c'est déjà plus simple. Mais ce n'est pas en option, hein, c'est quelque chose d'indispensable. Un chrétien ne peut pas être orgueilleux. Forcément, il va direct. Notre Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. La Bible parle de personnes qui sont devenues ennemies de la croix. C'est quoi un ennemi de la croix? C'est bien sûr quelqu'un qui ne supporte pas le message de la croix, mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas de planter la croix dans son cœur. Et lui, il veut seulement recevoir, il veut seulement prendre, mais il ne sait pas accepter le dépouillement qui va avec, le renoncement qui va avec. Jésus nous montre la voie. Jésus, de temps en temps, dans certains passages, on le considère comme celui qui a tout accompli, et on reçoit. Mais il y a d'autres passages où il faut regarder Jésus comme un exemple à suivre. Et là, quand il est question du baptême de Jésus, c'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Il nous montre une voie de renoncement, d'humilité, d'abaissement. Et dans ce sens-là, on a besoin de le suivre. Alors, ce n'est pas gagné, mais je crois que c'est vraiment important. Et remarquez que l'élévation vient assez vite quand même. Juste après cet abaissé, il est allé jusqu'au baptême. Qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Trois même. Le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. Et une voix du ciel se fait entendre. Celui-ci, mon fils, bien-aimé. Vous voyez, il y a comme une... J'aime pas ce mot, mais je le dis là. Comme une récompense à sa démarche. Comme un encouragement. Et forcément, même Jean-Baptiste, il a été encouragé par ce qu'il a vécu. La troisième chose, le troisième message que Jésus fait passer... En se faisant baptiser, il souligne et il marque l'importance de la repentance. Il est évident que, en prenant le baptême de repentance, même s'il n'en avait pas besoin, il appuie sur le message de la repentance. Jésus dit, finalement, je suis pleinement d'accord avec ce message de la repentance. Alors, on l'a lu, mais le message de Jean-Baptiste était un message de repentance. Il remuait les cœurs, il dénonçait le péché, pour ramener les gens vers la loi, vers le cœur de la loi. Il travaillait de cette manière-là. Et nous le savons, ça aussi, ce n'est pas en option. On entre dans la vie en Jésus-Christ, dans le salut comment? Par la foi, avec la repentance. On n'entre pas dans le salut par de la louange, en mimant quelque chose, mais en disant, Seigneur, je suis un pécheur, et j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin. La Bible nous dit que Dieu veut... que tout le monde soit sauvé. Mais dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il est dit que Dieu veut que personne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et Jean-Baptiste a prêché la repentance. Si on avait lu un petit peu après, dans Matthieu chapitre 4 verset 17, il nous est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il appuiera souvent dessus. Hein. Dès que Jésus avait l'occasion, il ramenait là-dessus. Un jour, on lui a rapporté des faits divers, une tour qui s'est effondrée, des gens qui ont été tués en offrant leur sacrifice. Jésus, il traite vite la question. Repentez-vous, il dira, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Des fois, c'était même très réducteur. Mais Jésus, quand il a donné ses consignes, dans Luc chapitre 24, il dira, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés. Il a donné comme consigne de prêcher la foi et la repentance. Et je le dis, hein, quand on dit « crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé », ça veut dire « crois en te repentant hein. ». Ça veut dire en décidant de changer de vie. Hein. Ça inclut. La foi et la repentance, c'est dans le même pack. Hein. On ne choisit pas, on prend le pack. C'est en tous les cas aussi le message que nous devons proclamer. La repentance, elle est essentielle, indispensable pour être sauvé. Jésus, en se faisant baptiser, a appuyé dessus. Et rappelons-nous, pour tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, et on est passé par la repentance. La repentance, ce n'est pas d'histoire ancienne. Hein. Esprit de repentance, il demeure en nous. Et dans ce que nous appelons la sanctification, c'est tout simplement la continuité ou la continuation, je ne sais pas quel bon mot, hein, de ce que nous avons un jour vécu. Un jour, on a décidé de renoncer, on a confessé nos péchés, on a identifié le péché, on a décidé de l'abandonner, et puis ben, on continue dans cette lancée-là. Avec l'aide de Dieu, avec son secours, des fois en bataille, des fois on coince dans certains domaines, et voilà notre but et notre objectif. Et puis Jésus fait passer un quatrième message en se faisant baptiser. Jésus signifiait que dans sa vie, il allait avoir du changement. Le baptême, et quelle que soit la forme des deux, les deux baptêmes, quel que soit, ça devait marquer un changement. C'est ce que Jean-Baptiste attendait quand il prêchait la repentance. Il voulait que les gens s'engagent à vivre autrement. Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui dit « je m'engage avec Jésus-Christ », il doit y avoir un avant et un après, un autrefois et un désormais. Et ça, c'est indispensable. Et on est toujours mal à l'aise quand on voit des personnes s'engager avec le Seigneur. Et le changement, il n'est pas net. C'est parce qu'il doit y avoir. Alors bien sûr, ça ne fait pas de nous des gens parfaits, mais ça fait des personnes qui se sont engagées à marcher en bonne conscience avec Dieu. Le baptême doit marquer ce changement. Il doit y être. Et Jésus, en se faisant baptiser, il signifie un changement. Mais pas par rapport à sa vie de péché, bien évidemment, puisque Jésus n'en avait pas. Jésus n'avait pas besoin de rectifier le tir, lui. Il n'avait pas besoin de... Oula, non, il n'y avait rien. Mais Jésus signifie un changement. Et dans quel sens? Eh bien, il lui dit, ma vie va désormais changer. Il allait cesser d'être le charpentier de Nazareth. Il dirait, maintenant, vous irez chez le concurrent. Il allait cesser de s'occuper de sa famille comme il l'avait fait. La Bible nous dit rien sur Joseph, mais on peut penser qu'il est mort très tôt et que Jésus, en tant qu'aîné de la famille, c'est lui qui s'est occupé. Et désormais, là, ça marque un changement. Son changement. Ce changement marque un petit peu l'entrée dans son ministère, dans cette ligne droite. Mais c'est quand même remarquable. Hein. Rappelez-vous à 12 ans ce qui se passe. À 12 ans, on n'a pas grand-chose sur l'enfance de Jésus. Mais on a ce passage à Jérusalem. Et Jésus dira à un moment donné, quand il le retrouve angoissé, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » On comprend deux choses par ça. Jésus sait qui il est et il sait pourquoi il est là. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il a 12 ans. Il est déjà dans cette ligne droite et il va attendre encore 18 ans. Quelle patience! Ça devait être trépigné. Hein. Et quand c'est le moment, ça va. Pendant 3 ans, ça va bombarder. Enfin, excusez-moi, ça va aller vite. Ça va s'accélérer, ça va être dense. Ça a mis longtemps. C'est quand même remarquable, ça, cette capacité à attendre. Et quand le temps est venu, alors ça va vite. Alors, ça déménage. Mais ça montre en tous les cas qu'il faisait passer ce message, que ça allait changer. Là, il y a en tous les cas une application pour nous, et c'est ce que l'on veut. On veut des baptêmes qui marquent des vrais changements de vie. Quelqu'un, voilà, il a ce qu'on a été avant, mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis pas devenu parfait. Mais je sais que ma vie a changé, hein. C'est ce qu'on a envie d'entendre et c'est ce que l'on veut voir. Des gens chez qui la grâce, elle est passée parce qu'il y a eu la foi et il y a eu la repentance. Je termine simplement en disant ceci. Il y a des textes qui parlent de Jésus où on ne perd pas de vue que c'est celui qui a tout accompli. Il est le sauveur et nous on reçoit. Là, ici, il faut regarder Jésus comme celui qui nous ouvre la voie. Et il nous faut le suivre. Et quand nous considérons le baptême de Jésus, Jésus nous montre la voie. Et en tous les cas, il nous montre une voie, un chemin de renoncement, d'abaissement, d'humilité. Et je crois que c'est vraiment important. J'ai l'impression que des fois, dans le milieu évangélique, l'humilité, ça dérange un petit peu. Mais c'est d'une grande valeur. Notre Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et nous, on veut savoir s'humilier. On veut savoir se mettre dessous pour élever les personnes. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Savoir renoncer, savoir se mettre dessous. Bien sûr, Jésus souligne aussi l'importance de la repentance. Prenons exemple sur Jésus. Tout ce que Jésus a fait, ça nous parle d'une manière ou d'une autre. Que son nom soit béni. On a un grand Sauveur et on a un grand Seigneur. Et on veut le suivre fidèlement. Si quelqu'un ne s'est pas engagé encore à le suivre, donne ta vie à Jésus. Reçois-le comme Sauveur. Et ensuite, tu le suis. Pour nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, eh bien, on veut le suivre. Et dans sa mentalité, retenons Philippiens chapitre 2, ayant en vous les sentiments. Et quand on lit les sentiments, c'est cette mentalité qui le rend capable de s'abaisser, de renoncer à lui-même, si c'est par amour, si c'est pour élever les autres, si c'est pour la gloire de Dieu. Et on veut être animé de cette mentalité-là. Que le Seigneur nous aide.